Prions. Seigneur, je me joins à la prière de Isabelle. Je te prie de nous remplir de ton esprit, sans lequel il nous serait impossible, Seigneur Dieu, d'écouter ta parole comme tu le veux. Nous sommes gouvernés parfois par l'intelligence humaine, mais en devenant une nouvelle créature à toi, Seigneur, tu vis ta vie en nous, et nous voudrions te bénir et te rendre grâce pour cela. Permets que ce matin, Seigneur, nous recevons ta parole avec assurance, avec foi, et qu'elle agisse en nous, dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé. Amen. Lisons trois textes. Un dans Lévitique, l'autre dans Luc, et puis le troisième, c'est dans l'épître, première épître de Pierre. Dans le livre de Lévitique, Lévitique signifie le livre de la loi. Lorsque quelqu'un, sans y prendre garde, touchera une chose impure, quelconque, que ce soit le cadavre d'un animal impur, continue, ou celui d'une bête domestique impure, ou bien celui d'un reptile impur, il deviendra lui-même impur et se rendra coupable. Luc, chapitre 10, à partir de verset 25. Alors, avant d'en arriver là, il faut comprendre le contexte. Jésus avait subdivisé en groupe de deux ses disciples et il les envoie pour aller proclamer la parole de Dieu. Mais à eux, Jésus a dit ceci, avant de pouvoir lire cette lecture. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que de ce que tu les as révélées aux enfants, oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne, si ce n'est le Fils qui connaît le Père, et le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien révéler. » Notez ce mot. Et se tournant vers les disciples maintenant, comme vous et moi, il dit, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. » Il ne parle pas des yeux physiques, là. Il parle des yeux de l'esprit. « Car je vous dis que beaucoup de prophètes et des rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous attendez et ne l'ont pas entendu. » Alors, je ne veux pas le développer, ça nous prendra beaucoup de temps. Je voudrais que vous ayez cette pensée en esprit, avant de continuer la lecture dans Luc, chapitre 10, à partir du verset 25. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et lui dit à Jésus, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ?» Dans la loi. Qui y lis-tu? Il y répondit, dans la loi, il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Alors, faisons un zoom sur le mot « fais cela ». Faire, dans le sens de faire des efforts. C'est-à-dire, emploie-toi de toute ta force à faire cette loi que tu m'as dite et tu vivras. Gardez ça à l'esprit. On continue. Mais lui, Voulant se justifier, il dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Et c'est lui qui déclenche cette parabole. Et Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. » Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en a eu compassion. Notez bien le mot. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. » Lequel de ces trois semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu du brigand? Voilà la question. Et le dernier texte, si on peut le lire, c'est possible, 1 Pierre 3, 18. En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les pécheurs, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant par l'Esprit. Alors rassurez-vous, je ne veux pas être long sur ce texte. Il y a des histoires dans la Bible qui transcendent toutes les religions pour devenir un symbole de compassion. En voici un. C'est une parabole qui est si puissante que même les athées l'admirent. Si vous demandez à n'importe qui dans les rues, selon vous, qu'est-ce qu'une bonne personne ? S'il a une connaissance biblique, il ne manquera pas de vous citer ce texte. Nous l'avons lu. À la lecture de cette parabole, nous sommes renvoyés à 4 personnages. Lévite, d'abord un sacrificateur et lévite, le blessé et le bon samaritain. Quand vous posez la question aux gens qui ont lu cette histoire, et même certains d'entre nous sans doute, c'est pour ça que je revisite ces paraboles de la bouche de Jésus. Parce que nous avons la chance de le lire et de le comprendre, mais au moment où Jésus exposait ces paraboles, pour montrer les subtilités du royaume du Père, il n'y avait pas d'autre texte avant que la loi. C'est pourquoi on a fait référence à la loi. Donc Jésus voulait communiquer quelque chose qui est tellement subtil que parfois dans les interprétations que nous avons, y compris moi bien sûr, nous l'inversons complètement, la compréhension. On pense que cette parabole est une parabole qui met en évidence la bonté humaine, l'indulgence, l'altruisme à l'égard de quelqu'un qui est en difficulté. Je l'avoue, mais voir de cette manière, nous perdons le bénéfice de cette parabole. Beaucoup d'organisations, parfois des associations caritatives, s'en inspirent. Et il y en a d'autres qui affichent sur leur bâtiment le bon samaritain, même les athées. Mais est-ce qu'on comprend vraiment le sens du mot bon samaritain de la bouche de Jésus, dans le contexte de l'époque, pour pouvoir l'adapter à notre réalité d'aujourd'hui? Et c'est là où je vous amène. Vous tenterez de vous rapprocher du bon samaritain que de l'autre, d'un mauvais religieux. Mais je vous demande de vous déloger de cette compréhension et écoutez ce que je veux vous dire par l'Esprit du Seigneur et vous ferez l'ajustement nécessaire. Cette histoire n'est pas un manuel pour venir au secours des déshérités, mais pour poser un diagnostic sur l'état désastreux de notre humanité. dans son besoin désespéré d'avoir un sauveur, car il ne peut pas se sauver lui-même. Alors, dans le contexte du texte, c'est un docteur de la loi qui a déclenché tout cela. Il pose la question à Jésus, on pourrait dire que c'est un débat théologique entre celui qui a appris la théologie dans les livres de la loi et celui qui incarne la théologie lui-même. Il oublie ce docteur de la loi qu'il est en train de s'adresser à qui ? À Jésus, la parole incarnée, le résumé incarné de la loi de Dieu. Alors Jésus lui a dit, mais qu'est-ce qui est écrit dans la loi ? Que dois-je faire ? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Humblement, laissez-moi vous dire, il y a beaucoup d'affection que le faire nous préoccupe. On pense que le salut, il est tellement gratuit qu'il faut faire quelque chose pour mériter le cœur du Seigneur. N'est-ce pas ? D'une manière ou d'une autre, nous le faisons. Ça nous domine et nous ne le savons pas. La religion de faire, ce qu'on appelle la religion des œuvres. Et dans l'islam, ça se dit, Dieu viendra dans son temps, il va mettre en balance les bonnes et les mauvaises œuvres. Si les bonnes œuvres sont bonnes, vous allez au paradis. Si les œuvres sont mauvaises, ben vous irez en enfer. Et chez nous, catholiques, dira que tiens, tu iras au purgatoire, tu vas purger les côtés qui sont mauvaises et puis les bonnes choses resteront. Ça nous influence tous. Ça, c'est la religion des œuvres. Faire. Faire pour avoir les faveurs de Dieu. C'est ça la confrontation. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Dit le docteur de la loi. Alors, Jésus va déclencher cette parabole. L'histoire de l'homme qui quitte Jérusalem pour aller à Jéricho. Jésus a utilisé le terme « descendre ». Il descend de Jérusalem vers Jéricho. On voit les symboles là. Descendre de Jérusalem vers Jéricho, Jérusalem représente la cité de Dieu. Elle représente la présence de Dieu. Si tu quittes la présence de Dieu et que tu veux descendre pour aller à Jéricho, et souvenez-vous, Jéricho, c'est une ville maudite. Elle avait été vaincue par Josué, qui est l'image de Jésus. Il a fallu renverser les murailles de Jéricho pour que Jéricho soit conquise. Et Josué avait maudit Jéricho, que malheur à celui qui reconstruira tes murailles. Il le fera au prix de son premier-né. Et si vous lisez la suite de l'histoire, il y a un héros qui s'appelle Yael. Il a reconstruit les murailles au prix de sa fille aînée. Donc on voit que cette ville, c'est une ville de malédiction. Elle représente le monde avec tout ce qu'il y est. Quitter la présence de Dieu pour aller vers Jéricho, c'est quitter la présence de Dieu pour descendre dans le monde. Se s'en éloigner de la présence de Dieu comme Adam et Ève ayant commis le péché, ils tombent dans une sorte de déchéance, de dégradation progressive. Plus on s'éloigne de Dieu, plus notre situation est beaucoup plus compliquée. Et vous verrez qu'en route de cette descente, il va se produire quelque chose. Quoi ? La Bible a dit que cet homme a été battu par qui ? Mis à tabac par les brigands. Qui l'ont dépouillé, qui l'ont blessé. Et il les a laissés dans le bas-côté de la route, demi-morts, physiquement comme spirituellement. Alors, comme Jésus sait qu'il a affaire à des religieux, docteurs de la loi, il va lui poser une question pour le pousser dans son retranchement. Alors Jésus va prendre l'exemple du sacrificateur. Le sacrificateur, c'est le prêtre. À l'époque, c'est celui qui joue l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. C'est lui qui fait les sacrifices. Il parle des situations de Dieu au peuple, il parle de la situation du peuple à Dieu. Mais cet homme, dans son passage, qu'est-ce qu'il fait? La Bible a dit qu'il a aperçu le blessé au bas-côté de la route qui gémissait, ou alors pas, mais qui gisait dans son sang. Il s'en est approché? Non. Quand il l'a vu, hop, il a fait un effort. Pas pour se rapprocher de celui qui est blessé, mais il a fait un effort de s'en éloigner. Jésus veut donner un espoir à la religion pour dire que dans une telle situation, toi qui es docteur de la loi, voici ce que tu ferais ou de ce que tu as fait. Tu as vu ce blessé dans ta connaissance de la loi, au lieu de venir à ce secours, tu as mis tes efforts à t'en éloigner pour plusieurs raisons. Et l'une des raisons, c'est celle que nous avons lue dans Luc, Lévitique chapitre 5, verset 2, qui dit que la loi stipule que si quelqu'un touche un cadavre, il serait impur. Or, lui, sur la route de son service, il a vu quelqu'un qui est tombé, qui gisait dans son sang. Fort de son réflexe de religieux, qu'ai-je à perdre à aller chercher? Si je le touche, je serai impur, je ne plairai pas à Dieu. D'abord, je vais prendre mon temps, je vais le perdre, alors que j'ai un office à accomplir. Et dans sa tête, beaucoup de raisons tournent. Il est passé outre. Ce n'est pas la connaissance de la parole de Dieu qui lui manque, dites-moi. Ce n'est pas la connaissance de la parole de Dieu qui manque à un sacrificateur. Il le sait. À qui veut-il plaire? Dans sa tête, il veut plaire à Dieu. Dans sa tête, il veut obéir au commandement. Nous y reviendrons. Jésus va donner une nouvelle chance à la religion. Il a dit, mais après cela, il y a un Lévite qui passe. Les Lévites, c'est une race qui a été choisie pour accomplir le service pour Dieu. Eux, ils n'ont pas d'héritage. Mais ils vivent de ce que le peuple de Dieu leur apporte. Il peut être le représentant du diacre ou de quelqu'un qui est assistant du ministère dans le temple. Lui, il vient. Il s'est approché, il a vu le blessé. Il a regardé, il a examiné. Tiens, il a été battu. Tiens, on lui a cassé le bras. Tiens, il est gisé dans son sang. On lui a cassé les dents. Il a l'œil poché. Il a regardé, il a examiné. Et il passe outre. Il a fait un diagnostic de l'état de la personne qui a été mise à tabac, fouettée, dépouillée. Mais il n'a pas fait plus que cela. Il s'en est allé pour les mêmes raisons que la première. Voilà que le bon samaritain se rapproche, il vient. Alors pour comprendre le texte, il faut comprendre la relation entre les samaritains et les juifs de l'époque. Les samaritains étaient les gens les plus rejetés, un peuple considéré comme impur. Ils adoraient les dieux idolâtres. Il n'y a pas pire ennemi que les Samaritains. Entre les Juifs et les Samaritains, c'est toujours la guerre. Et Jésus, pour briser le lien, dans Jean chapitre 4, c'est vers une Samaritaine qu'il est allé pour annoncer la parole de Dieu. Les Samaritains étaient des gens rejetés. Quand le docteur posait la question à Jésus, mais qui est mon prochain? Il ne lui est même pas passé à l'idée que le prochain pourrait être un Romain qui les domine. Il ne peut pas imaginer un seul instant que le prochain ne peut pas être un pécheur. Il ne peut pas imaginer un seul instant que le prochain veut signifier un Samaritain, loin de lui. Loin de lui de penser. Et c'est là où Jésus va lui croiser le fer. Jésus va le pousser dans son retranchement pour montrer que ce à quoi il croit n'est pas ce que Dieu attend de lui. Un Samaritain qui passe, qui jette un coup d'œil, qui voit le blessé, qu'a-t-il fait? Il s'est rapproché. Parce que le prochain, c'est celui dont je me rapproche, bien sûr. Ce n'est pas un jeu de mots. Un prochain, c'est celui dont je suis proche. Dans la tête du docteur de la loi, son prochain, ce sont ses amis, les docteurs de la loi, ceux qui étaient dans le temple. C'est pour qu'il a posé la question à Jésus, qui est mon prochain? Juste pour narguer le Seigneur. Le Samaritain, peuple rejeté, méprisé, va se rapprocher du blessé dans le fossé. Il va l'examiner. Déjà dans ce geste, il a pris un risque. Il a pris un risque. Connaissait-il la loi? Je ne sais. Mais ce que je sais, que quand il a vu cet homme dans le fossé, quelque chose s'est produit en lui. Une sorte d'identification. Il a vu la blessure, il a ressenti dans ses entrailles. Et cette compassion qu'il a le blessé le pousse à se rapprocher de lui, à le voir. Il a relevé, il a examiné toutes les blessures et il va utiliser deux produits. L'huile et le vin. L'huile des services dans le temple était une huile spéciale. Ces compositions sont faites avec des éléments que Dieu lui-même a dictés. Ça permet de oindre les rois, de oindre les prophètes, de oindre les sacrificateurs. Et plus tard dans la Nouvelle Alliance, l'huile est nécessaire pour oindre les enfants de Dieu. C'est pour ça que quand vous êtes malade, n'hésitez pas à aller voir les pasteurs et les conseillers pour leur dire, voilà, j'en souffre. Et la Bible a dit dans Jacques chapitre 5, après votre confession, il vous faut une onction d'huile et le malade sera guéri et ses péchés pardonnés. Un moyen de grâce que nous n'utilisons pas beaucoup. C'est une histoire de dire au monde céleste que j'appartiens à la famille royale et que je suis prince et que je suis princesse en faisant cette onction d'huile. Le Samaritain, il va prendre l'huile pour adoucir les blessures et il va prendre le vin pour désinfecter. L'huile et le vin ne sont rien d'autre que l'image de l'Esprit Saint. Mais elle va beaucoup plus loin, l'Esprit réside dans la parole. C'est l'incarnation du Christ lui-même. Donner l'huile pour guérir. N'est-ce pas lui qui s'est donné à la croix pour nous apporter la guérison? N'est-ce pas lui dont parle Ésaïe 53? Par ses meurtrissures nous avons été guéris et que le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Celui qui s'est rapproché, le bon samaritain, est l'image de celui qui a été rejeté. Jésus a été celui qui a été rejeté. Quand on dit de Jésus, « Ah, celui qui vient de Nazareth, est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Celui dont le système religieux ne veut pas intégrer. Celui qui est considéré comme le moindre de tout. On le traite de charlatan. On le traite de magicien noir. On le traite de celui qui est le compagnon des pécheurs, les amis des prostituées, comme l'image du bon samaritain que personne ne veut accepter. Vous voyez bien à quoi se rapporte le bon samaritain. Pas celui qui est altruiste, pas au bon chrétien qui passe son temps à servir Dieu auprès des hommes, même si l'idée est un tout petit peu là. Mais si on se limite simplement à ça, on aurait perdu la grande autorité que représente cette parabole. Pour engager Dieu dans notre vie, il faut que notre pensée soit alignée sur la pensée du Père. Vous me diriez qu'on ne peut pas tout comprendre de Dieu, certes, mais ce que Jésus nous a donné est assez suffisant pour nous conduire au salut. Ces connaissances que Jésus nous donne, c'est assez suffisant pour déclencher le royaume de Dieu dans notre vie. Et si notre pensée n'est pas celle qui est celle du Christ, il nous manque quelque chose. Si notre pensée dans la parole de Dieu n'est pas alignée sur ce que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner, sur ce que Jésus veut que nous comprenions pour que nous rentrons avec lui dans son sphère du royaume, dans son autorité, nous aurions perdu quelque chose. Et souvent l'Église, pour avoir mal interprété ce texte, nous fonctionnons en dessous. L'Église n'est pas une organisation sociale. Ah non. Ah non. Les actions sociales, c'est de la diaconie pour appuyer l'Évangile. Mais si l'Évangile, l'Église de Christ, quitte l'Évangile et qui se met simplement dans les actions sociales, qui se contente du corps et qui un jour mourra, nous aurons manqué le salut éternel. Car c'est ça l'enjeu. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus dira, la vie éternelle, c'est que le peuple te connaisse, toi Dieu, le vrai Dieu, et moi Jésus, ton Fils que tu as envoyé. Voilà la démonstration que Jésus est en train de vouloir faire. Ce n'est pas un manuel d'altruisme. Ce n'est pas un mode de conduite du bon chrétien. C'est l'image de Jésus. Continuons l'histoire. Quand il s'est approché du blessé, après l'avoir soigné, après avoir adouci ses blessures, après avoir bandé ses plaies, qu'a-t-il fait? Il a pris le blessé, il l'a mis sur sa monture. C'est-à-dire, il en est descendu. Et il prend le blessé, il l'a mis sur sa propre monture, et lui, il fait quoi? Il marche à pied. Du ciel où il était, Jésus a quitté son ciel de gloire pour venir. Il prend notre place. Lui qui n'a pas connu le péché, il a été fait péché par identification. Il s'est substitué à nous pour que nous vivions sa vie. Il a été rejeté pour que nous soyons acceptés. Il a été abandonné du Père pour que nous puissions être acceptés dans la présence de Dieu. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que toi et moi, nous soyons enrichis, alors je précise bien le mot, des richesses de l'esprit. C'est pourquoi Jésus a dit à disciples, « Oh, vous êtes heureux, makarios, pour avoir les yeux ouverts et que vous voyez ce que les prophètes avaient voulu voir, mais ils n'ont pas vu. Les rois de la terre avaient voulu voir ce que vous voyez, mais ils ne l'ont pas vu. Mais vous, heureux vous, comme vous êtes comme des petits enfants dans l'humilité, il vous sera donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. » Un jour, à la pastorale, j'ai eu l'occasion d'exhorter mes amis. Je lui ai dit que, mais si Jésus venait aujourd'hui, il nous écoutait ou nous attendait prêcher, penserez-vous quelle serait sa réaction? Jésus a dit, je vous envoie pour prêcher le royaume. Accomplissez, chassez les démons et guérissez les malades. Voilà. La mission que Jésus a donnée. Voyez le cahier des charges. Prêchez le royaume de Dieu, chassez les démons et guérissez les malades. Beaucoup parlent de Jésus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler de Jésus. Mais Jésus ne nous a pas demandé de parler de lui. Jésus nous a demandé de parler du royaume. Et comme on parle du royaume, inévitablement on parlera de lui. La Bible devient un manuel de bonne conduite. Parfois j'assiste à des séminaires, comment on fait pour gagner de l'argent? Comment on fait pour être heureux? Être heureux ne signifie pas manquer de nourriture. Être heureux ne signifie pas avoir beaucoup d'argent. Quand Jésus parlait, heureux vous, avec vos yeux que Dieu vous a donné de voir là, soyez heureux. Jésus n'a pas parlé d'argent là. Jésus n'a pas parlé de santé. Puisqu'il a refusé de guérir le Simon le boiteux. Jésus n'a pas guéri tout le monde. Il veut que dans notre état, nous manifestons que la vision du royaume de Dieu est supérieure à la vision du monde. Si nous ramenons le royaume de Dieu à notre bien-être, mais nous réduisons la portée de son royaume, il est au-delà de tout. Qu'il pleuve, qu'il vente, Jésus reste roi. Et Dieu reste Dieu. Et c'est ce que Jésus est en train de faire au docteur de la loi. Après avoir expliqué tout cela, il a dit maintenant, où est ta conclusion? Où est ta conclusion, monsieur le docteur de la loi? Le bon samaritain, c'est Jésus. C'est Jésus. Et parfois, nous sommes des religieux. Nous observons bien la situation du monde, mais nous n'avons pas les éléments pour y apporter des réponses. Quelle est la leçon finalement? Quand Jésus lui a dit « Va, emploie-toi à faire tout cela et tu vivras », il y a une part de vérité. Il y a une part de vérité dans le sens où la loi, dans les 10 commandements de Exode 20, il y en a 10. Et Dieu va donner des détails à Moïse qui va développer cette loi en commandements et en prescriptions. Il y a 365 commandements et 248 prescriptions et ça fait 613 lois. OK? Pour avoir les faveurs de Dieu, il faut accomplir les 613 lois. Voilà la norme. Est-ce que l'homme est-il capable d'accomplir les 613 lois? Dans le catéchisme d'Heidelberg que Isabelle a lu ce matin, elle a évoqué. L'être humain est-il capable d'obéir à tout cela? Non. Non. Et pourtant, cette 613 lois a été résumée en deux par Jésus-Christ. Et Jésus l'a déjà accompli. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça, Jésus l'a déjà fait. Et si nous croyons en Jésus, cette capacité à obéir à la volonté de Dieu nous a été versée par le Saint-Esprit. C'est ça la vie chrétienne. C'est la vie de Jésus en nous. Jésus l'a accompli. Les 613 lois, humainement parlant, est impossible à l'être humain de l'accomplir. Voilà pourquoi Jésus a ajouté, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu. Et pour connaître le vrai Dieu, il faut passer par Jésus. Parce que celui qui connaît le Père, c'est le Fils, n'est-ce pas? Et celui qui connaît le Fils, c'est le Père. Et si tu veux connaître le Père, c'est par le Fils que tu connais le Père. Et le Fils, c'est Jésus. Il n'y a rien de cela dans l'approche du docteur de la loi. Voilà la pensée du Christ. Voilà la pensée du Christ. Voilà le sens de cette parabole. Qui parfois, nous en avons une lecture inversée. Et nous manquons de tirer le pouvoir, la puissance, l'autorité qui est dans cette parabole. Il faut faire l'ajustement. Et repartir avec le Seigneur. Voilà le sens de ce mot. Et quand Jésus dit maintenant, désormais, va et fais-le, il n'est pas dit que tu iras t'employer à le faire avec ta force. Non, va et fais-le, c'est que laisse-moi agir au travers de toi. Ce que je demande de toi, c'est juste l'obéissance. Soumets-toi à moi et c'est moi qui fais le reste. Dieu nous demande des commandements, mais c'est lui qui le fait finalement au travers de nous. Ce qu'il nous demande, c'est simplement l'obéissance. Laissez-moi vous avouer, mes bien-aimés, lorsque la vie chrétienne commence à devenir difficile, arrêtez-vous, faites le point avec Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie qui ne vient pas de toi et qui fait que la vie chrétienne s'alourdisse? Ah oui, je le vois là. Ça fait 7 ans, 8 ans que je suis avec vous, j'ai observé beaucoup de choses. Ce n'est pas pour vous culpabiliser, mais Jésus l'a fait exprès pour culpabiliser le docteur de la loi, en lui proposant une solution. Il va lui montrer que tes observances de la loi ne servent à rien. Tu es même incapable de le faire. Il aurait pu besoin de dire, Seigneur, c'est vrai, ce que tu dis est vrai. L'être humain est incapable d'obéir à tout ça. S'il te plaît, viens à notre secours. Mais non, poussé par l'orgueil, il veut dire, mais qui est mon prochain pour que je puisse obéir à la loi? Alors Jésus lui en a fait la démonstration devant lequel il est devenu tout petit. Il a dû repartir en disant « Ouf, je l'ai cherché et je l'ai eu. » Voilà ce que Jésus fait pour notre bien. Voilà le sens de cette parabole. Je vous invite à la prier. Seigneur, tu nous as donné ta parole qui est comme une lumière. Et elle vient d'allumer dans certains recoins de notre vie qui ont besoin de ta présence. Que ces coins de ténèbres, ces poches de résistance cèdent devant la présence de ton Esprit Saint. Agis en nous. Donne-nous de ne pas battre de l'air en vain, mais donne-nous de nous appuyer sur l'œuvre totale que tu as accomplie. Le sacrifice que tu as mené est un sacrifice total, intégral. Il n'y a rien à y ajouter de la part d'un être humain. Vouloir ajouter quelque chose à ton sacrifice, c'est de le considérer comme étant insuffisant. Ce serait quel blasphème. Mais Seigneur, tu as tout accompli. Tu es devenu malédiction pour que nous ne puissions être bénis de toutes sortes de bénédictions avec Christ dans les lieux les plus élevés. Délivre mes bien-aimés, Seigneur. Déloge-nous de notre conception parfois sincère, mais on peut se tromper aussi sincèrement. Et ramène-nous dans la vérité, même si celle-ci peut nous déranger. Mais elle ne dérange pas l'esprit. Ces vérités dérangent, c'est la chair que la vérité dérange. Elle est destinée à nous arracher de l'influence de ce monde pour nous placer dans ton royaume et de vivre une vie libre, dans l'esprit surtout. Bénis mes bien-aimés, Seigneur. Bénis ton Église. Que le souffle de ce message s'étende. Et que les froments soient séparés de la paille. Que les demi-vérités soient séparées de la vérité. Que les conceptions religieuses soient complètement vaincues en brèche et que seule la vérité incarnée par Christ, au travers de son esprit, nous inspire et nous conduise. Merci Père, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni, dans le nom de Jésus. Amen.